Doha, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du vendredi 6 mai 2016. Au sommaire ce soir...
Abdoulkarim Mekassoua, un musulman du PK5, élu président de l'Assemblée nationale.
C'est en République centrafricaine. Au Nigeria, un groupe rebelle inconnu lance une attaque contre une installation de la compagnie américaine Chevron.
Burkina Faso, le Premier ministre Paul Kabatieba s'est prononcé aujourd'hui sur l'état de la nation.
Nouveau bilan dans les affrontements intercommunautaires au Mali, 24 morts et 5 blessés.
Bien sûr, nos pages sport et économie.
Tout de suite après le journal.
24 morts et 5 blessés au Mali. C'est le nouveau bilan des affrontements intercommunautaires survenus à Malemana, dans le cercle de Ténékou. Une délégation gouvernementale et parlementaire s'est rendue sur les lieux. Objectif, trouver une issue favorable à ce conflit. L'évolution de la situation avec notre correspondant à Mopti, Mamadou Bokoum.
Depuis le 30 avril dernier, Peul et Bambara s'affrontent à Malemana dans la commune rurale de Kareri, cercle de Ténékou. Pour mettre fin à ce conflit intercommunautaire, le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, Amadou Konaté, celui de la Réconciliation nationale, Zahdi Oud Sidi Mohamed, et le ministre de la Décentralisation, Ahmed Ag Erlaf, se sont rendus sur le terrain. Ils étaient accompagnés des députés du cercle de Ténékou, des représentants de la CMA et des responsables des associations Peul. Andjoura, chef-lieu de la commune de Kareri, la délégation a tenu une rencontre avec les deux parties. Bambara et Peul se sont engagés à mettre fin à ce conflit. Un conflit qui a fait 24 morts et 5 blessés selon le dernier bilan fourni par le préfet du cercle de Ténékou, Magandoumbia. La situation est calme pour l'instant, mais les deux communautés se regardent en chien de faïence. Toutes les dispositions doivent être donc prises pour éviter d'éventuels rebondissements. Mamadou Bokoum Mopti pour VOA Afrique.
Au Nigeria, des rebelles ont fait exploser une installation offshore du groupe pétrolier américain Chevron dans le sud du pays. Cette nouvelle, annoncée aujourd'hui par la marine nigériane, laisse craindre une nouvelle flambée de violence qui pourrait affecter la production de brut. Les précisions d'Idrissa Seloudia.
L'attaque a eu lieu hier soir dans l'état de Delta, la région pétrolifère du premier exportateur de brut en Afrique. Elle n'a fait aucune victime, selon le porte-parole de la marine, Chris Ezekobe. La marine nationale ainsi que les autres forces de sécurité traquent les assaillants, a assuré M. Ezekobe. Il a ajouté qu'un groupe dont personne n'avait jusqu'à présent jamais entendu parler, les Vengeurs du Delta du Niger, a revendiqué l'attaque. Mais il n'exclut pas l'implication d'anciens chefs rebelles dont Tom Polo, actuellement recherché et poursuivi pour fraude. Les attaques contre les installations pétrolières sont en hausse au Nigeria depuis que les autorités ont ordonné en janvier l'arrestation de Tom Polo pour corruption. Tom Polo est l'un des chefs rebelles les plus connus du mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, MEND. Il est poursuivi pour vol, détournement et blanchiment d'argent à hauteur de 235 millions de dollars.
Là, en République centrafricaine, Abdoulkarim Mekassoua est élu président de l'Assemblée nationale. Maître Mekassoua, d'origine musulmane, a été plusieurs fois ministre et était candidat indépendant à la présidentielle de 2015. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Arrivé septième à l'issue de la présidentielle du 30 décembre 2015, avec 3,21% des voix, le député de la deuxième circonscription du troisième arrondissement de Bangui a remporté ce vendredi le vote du président du Parlement avec une majorité écrasante, 65 voix sur 127 votants. Abdoulkarim Mekassoua est ainsi choisi parmi 7 candidats, dont Anissé Georges Dologuélé, 24 voix, et Martin Ziguélé, 14 voix, deux autres candidats à la récente présidentielle dans le pays. De confession musulmane, ancien ministre d'État aux Affaires étrangères, ancien ministre de l'Éducation, Abdoulkarim Mekassoua dirigera durant les 5 prochaines années le Parlement qui vient de succéder au Conseil national de transition. La première vice-présidence revient à Aurélien Simplice Zingas, député de Mobaye, succédé de Timo Léon Baïkoua, un autre candidat à la présidentielle du 30 décembre dernier. La troisième vice-présidence est de nouveau assurée par David Yama, qui a déjà occupé ce poste 5 fois consécutives entre 2005 et 2011. Au total, 11 personnes, dont une femme, composent le bureau de la nouvelle Assemblée nationale. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Encore des violences en territoire de Béni, dans l'est de la RDC. Selon notre correspondant sur place, 4 personnes ont été tuées cet après-midi dans le village de Ndalia. Cela s'ajoute aux 17 morts cette semaine dans la région d'Erengeti. L'armée congolaise et la MONUSCO affirment avoir mis sur pied un dispositif sécuritaire commun pour contrecarrer toute autre attaque des rebelles ougandais ADF.
Et toujours en République démocratique du Congo, le gouvernement annonce que le chef adjoint des rebelles hutus rwandais des FDLR, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, a été transféré hier à Kinshasa. Léopold Mugyombare a été arrêté cette semaine à Goma, dans l'est du pays. Par ailleurs, les 3 agents du CICR enlevés depuis mardi dans le territoire du Rutshuru ont été relâchés aujourd'hui. Une rançon de plus de 1 000 $ a été versé pour chacun. Ils auraient été torturés et auraient passé 3 jours sans manger ni boire.
Les réfugiés ne sont plus les bienvenus au Kenya. Pour des raisons de sécurité nationale, Nairobi annonce que le pays refusera désormais d'accueillir de nouveaux réfugiés sur son sol. Les 2 principaux camps de réfugiés du pays devraient donc fermer très prochainement. Ainsi, selon la nouvelle directive, les Somaliens ne recevront plus automatiquement le statut de réfugié, comme c'était le cas jusqu'ici, et devront faire des demandes individuelles. Par ailleurs, les réfugiés vivant déjà au Kenya devraient être rapatriés le plus rapidement possible en Somalie. Ces mesures font suite à la multiplication des attaques des islamistes somaliens d'Al-Shabaab au Kenya.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, en Grande-Bretagne, le Parti national écossais a remporté une victoire en demi-teinte au Parlement régional d'Écosse, où il a perdu sa majorité absolue, tandis qu'à Londres, le candidat travailliste Sadiq Khan était en tête selon les premiers décomptes. Salwa Jafari.
Sadiq Khan, 45 ans, musulman, fils d'un chauffeur d'autobus pakistanais, pourrait devenir le premier maire musulman d'une grande capitale occidentale. Après environ un tiers des votes dépouillés jusqu'ici, il devance son principal adversaire, le conservateur et fils de milliardaire, Zach Goldsmith.
Muslim or non-Muslim is not making any...
Musulmans ou pas, peu importe pour la communauté, ce qui est important, c'est qui fait quoi. Ce qui compte pour la communauté, c'est de faire des choses qu'on promet de faire.
Je pense que ses origines comptent. Il sera plus à même de comprendre ce qu'endurent les gens et je pense que Sadiq Khan a grandi dans ce genre d'atmosphère. Il a connu ces luttes, sa famille a vécu ces luttes, donc il va probablement se battre plus pour un Londres plus juste.
Les résultats sont attendus en fin de journée. En cas de victoire, Sadiq Khan, député de Tooting, un quartier populaire du sud de Londres où il a grandi en cité HLM, succéderait à l'excentrique conservateur Boris Johnson.
L'Ouest canadien était toujours en proie aux flammes dans l'Alberta. Ce matin, près de 100 000 personnes ont été évacuées depuis plusieurs jours. Les évacués ne vont pas pouvoir rentrer chez eux de sitôt car le feu progresse toujours, Nicolas Pinault.
Oui, au total, ce sont déjà 85 000 hectares qui sont partis en fumée dans toute la province de l'Alberta, grande pratiquement comme la France. Les dégâts sont tellement importants qu'il serait illusoire pour les habitants de penser pouvoir rapidement retourner chez eux. C'est l'avertissement lancé hier soir par la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley. Hier, les autorités de l'Alberta ont débuté un pont aérien pour sortir une bonne partie des 25 000 personnes coincées au nord de Fort McMurray, où ils risquaient d'être pris en tenaille par les flammes. Un immense convoi routier s'est formé ce vendredi à 20 km au nord de Fort McMurray et la police a commencé à escorter les sinistrés par groupe de 50 véhicules pour leur faire traverser la ville ravagée par le feu. Pour l'heure, fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer, même si l'incendie se rapproche dangereusement d'un site pétrolier à peine 5 km. À l'aide d'hélicoptères et de bombardiers d'eau, plus de 1 000 pompiers sont sur le terrain pour lutter contre les flammes.
La Russie et le Qatar ont convenu aujourd'hui de la nécessité d'aboutir à un règlement politique en Syrie en préservant l'intégrité territoriale et l'unité. L'émir du Qatar a fait parvenir un message au président Vladimir Poutine par le biais de son ministre des Affaires étrangères en visite à Sotchi, en Russie. Les deux pays ont exprimé leurs préoccupations au sujet des récents développements en Syrie. 2 semaines de combats entre rebelles et forces pro-Assad ont fait au moins 285 morts à Alep, la deuxième ville du pays. Une trêve de 48 heures négociée par Washington et Moscou est entrée en vigueur mercredi soir.
Bagdad, la capitale irakienne, bouclée ce vendredi, craignant une répétition de l'agitation de la semaine dernière lorsque des manifestants ont fait irruption dans la zone internationale fortifiée, dite zone verte, et ont investi le Parlement, forçant les législateurs à fuir pour sauver leur vie. Le gouvernement a mis en place des barrières de béton à travers la ville. En fin de journée, cependant, la manifestation massive que redoutaient les autorités ne s'est pas matérialisée. Depuis quelques mois, Bagdad connaît des troubles dus à ce que la population dénonce comme une corruption massive au niveau du gouvernement, un clientélisme politique et l'inefficacité des services de l'État.
Les créations d'emplois aux États-Unis en avril ont fortement déçu, même si le taux de chômage reste inchangé à 5%. L'économie a créé 160 000 emplois le mois dernier contre 208 000 en mars, a indiqué le département du travail. Ce chiffre est bien en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 207 000 nouvelles embauches. Près de 8 millions d'Américains sont encore sans emploi.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Nathalie Barge.
Le Burkina Faso totalise 5800 comptes dormants dans des organismes financiers se trouvant sur son sol d'une valeur de près de 700 millions de francs CFA, indique l'APA. Citant le ministère de l'économie et des finances. Cette situation a conduit les autorités à légiférer sur les comptes dormants conformément aux normes internationales. Après identification, ces comptes seront saisis et conservés par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo est devenu le 40e pays africain membre de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Une annonce faite par le président togolais lors d'une rencontre avec le président de l'institution Benedict Orama. Fornia Singbe a déclaré que son pays était résolument engagé à assurer la croissance du secteur privé local et l'augmentation des capacités de production énergétique. Lors de sa visite au Nigeria, le président camerounais Paul Biya a invité son homologue Mouamadou Bouhari à œuvrer pour la mise en place de projets de co-développement, rapporte l'agence Ecofin. Le sous-développement favorise les mouvements terroristes tels que Boko Haram, a déclaré M. Biya, estimant qu'il serait utile d'élaborer des projets de co-développement dans les régions frontalières parfois délaissées.
Pour l'actualité sportive, on a en studio Nicolas Pineau. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Coupe de la Confédération, tour de cadrage dès ce soir.
Écarté de la Ligue des Champions, l'Étoile du Sahel n'a plus le droit à l'erreur. Si le club veut sauver sa saison africaine, les hommes de Faouzi Benzarti affrontent les Gabonais du CF Mounana. Autre choc ce soir en Tunisie, les Libyens du Harli Tripoli, reversés de la Ligue des Champions, face aux nouveaux venus égyptiens de Misr El Makassa. On suivra tout particulièrement durant ce week-end le choc maghrébin entre Béjaïa et le géant espérantiste. À suivre demain également le stade malien qui accueille le FUS de Rabat, Al Merreikh contre le CAC de Marrakech. Les Young Africans, le club de Tanzanie face au Sagrada Esperanza d'Angola et puis les Mamelodi Sundance contre le Medeama du Ghana. Enfin dimanche, le tout-puissant Mazembe face au stade gabésien de Tunisie.
Nouvelle sanction pour corruption à la FIFA.
La Fédération internationale de football a suspendu à vie deux anciens hauts responsables sud-américains ayant plaidé coupables de corruption devant la justice américaine qui enquête sur un vaste scandale frappant l'instance mondiale. Il s'agit du Chilien Sergio Radoué et le Colombien Luis Bedoya, tous deux anciens hauts responsables de la FIFA et vice-présidents de la Confédération sud-américaine.
Tennis, tournoi de Madrid, ça passe pour Rafael Nadal.
L'Espagnol a battu le Portugais João Sousa en s'imposant en 3-7, 6-0, 4-6, 6-3 pour rejoindre le Britannique Andy Murray en demi-finale.
Et la phase finale de la NBA se poursuit. Les derniers résultats, Nicolas ?
Toronto est revenu à la hauteur de Miami dans leur duel des demi-finales de la conférence Est des playoffs en arrachant la victoire en prolongation dans le deuxième match, 96-92. Le vainqueur de cette demi-finale sera opposé soit à Cleveland, soit à Atlanta. Les cavaliers de LeBron James qui mènent 2-0 avant le match ce soir, numéro 3, dans la salle à Atlanta.
Merci Nicolas, bon week-end.
Merci Chérubin.
Voilà pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie ce vendredi. Morgane Guériec et Gaby Dorsil, place au dossier du jour. Première escale ce soir, l'est de la République démocratique du Congo.
Après un nouveau massacre de civils dans la région de Beni, l'armée congolaise et les casques bleus de la mission onusienne en RDC assurent avoir un dispositif sécuritaire commun pour contrecarrer toute autre attaque de la rébellion des islamistes ADF. La société civile demande que cette fois, des actions concrètes soient menées sur le terrain après le dernier carnage au cours duquel 17 personnes ont été lâchement tuées à Eringeti. Ajoutez à cela les 4 morts du village de Ndalia ce vendredi après-midi. Correspondance de Charlie Kazereka dans la région de Beni.
Située à une cinquantaine de kilomètres au nord de la ville de Beni, Eringeti reste une cité à moitié fantôme. À notre arrivée dans le village, la psychose et le désespoir se lient sur tous les visages de quelques habitants restés 48 heures après le nouveau massacre de la population dans cette région. La souffrance de cet enfant âgé de seulement 13 ans, 8 membres de sa famille viennent d'être assassinés.
Ils sont arrivés, ça n'a pas traîné, ils ont commencé à tirer de partout. J'ai profité pour me cacher dans un petit caniveau derrière la maison. Dès là, j'attendais toute la scène dans la maison, comme mon père et ma mère sont en train d'être massacrés. Je perdis 8 membres proches de ma famille.
Les villageois d'Eringeti confirment avoir donné l'alerte à l'armée, mais cette dernière n'est pas intervenue à temps. Porte-parole FRDC dans l'opération Sokola 1 à Beni, lieutenant Mac Azoukaï.
C'est vrai que nous avions eu cette information-là que l'ennemi était dans le parage. Mais on a dépêché une patrouille qui malheureusement est arrivée au moment où l'ennemi quittait déjà l'endroit qui nous avait été indiqué. Il a profité de la nuit, de la configuration du terrain pour infiltrer le dispositif. Et commettre ce crime de guerre-là, ça nous inquiète franchement.
Le général Jean Bayon, commandant adjoint de la force onisienne en RDC, et précise que tous les moyens seront mis en œuvre pour poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Le général Jean Bayon.
Il faut aussi reconnaître que depuis la fin novembre, il n'y avait pas eu d'attaque majeure de la part de ces groupes criminels. La réponse à ces attaques, c'est notre détermination à aller jusqu'au bout de la neutralisation de ce groupe criminel. Entre les FARDC avec l'appui de la MONUSCO, c'est ce que nous faisons et c'est ça la réponse.
Après ces énièmes massacres à Beni, la société civile demande plus d'actions concrètes de la part de l'armée, mais aussi de la part de la force onisienne d'intervention dotée des mandats d'attaquer toute rébellion présente en RDC.
Mais c'est une situation qui est cyclique, qui est répétitive et c'est cela qui énerve la population. Comment on n'arrive pas à mettre fin à cette situation? On parle de guerre asymétrique, ce sont les mêmes discours. Mais est-ce qu'il n'y a pas de techniques militaires pour faire face à ces terroristes? C'est ce que la population demande.
Les associations de la société civile dans la région de Beni ont jusqu'à ce jour comptabilisé plus de 1000 personnes tuées par cette rébellion d'islamistes et des ADF. De retour d'Eringeti, Charlie Kasereka pour VOA Afrique.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Dans la majorité, plutôt au Burkina Faso, le Premier ministre Paul Kabatieba s'est prononcé aujourd'hui sur l'état de la nation. Un écho de ce discours et les réactions à Ouagadougou avec notre correspondant sur place, Zoumana Ounogo.
Le Premier ministre Paul Kabatieba a fait un discours marathon pour conclure par ceci.
Au total, il ressort que l'action gouvernementale au cours de ces 4 derniers mois a été contrainte par la fragilité de la situation économique et financière héritée du gouvernement de la transition. Nonobstant ces difficultés, mon gouvernement a fait adopter par votre auguste assemblée la loi des finances rectificatives afin de prendre en charge les engagements souscrits au nom de l'État et non budgétisés, de poser les bases des réformes structurelles indispensables pour mettre le pays sur une trajectoire de croissance forte, durable et inclusive.
Après le discours, nous avons tendu notre micro aux députés de l'opposition, suivant leur réaction.
Sur le terrain du développement solidaire, moi je constate par exemple que pour ce qui concerne la femme, il y a 4 lignes, 3 lignes qui ont été consacrées à la femme et 6 lignes qui ont été consacrées à la question de la solidarité. C'est-à-dire 9 lignes au total pour la femme qui pourtant représente 52% de notre population. Et tout le monde s'accorde à dire que la pauvreté à un visage féminin.
Je suis député Zerbo Moussa du groupe parlementaire UPC. Je suis de l'opposition. Voilà, donc il faut d'abord dire que c'est un exercice, c'est vrai. Il a conduit en tout cas avec dextérité, ce qu'il faut reconnaître. Mais bon, de ce qui ressort de façon générale, il y a des points de satisfaction, il y a des points d'insatisfaction. Notamment les mesures prises quant à la résolution du problème d'eau à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Il y a des motifs d'inquiétude. Il y a beaucoup d'inquiétude parce qu'avec tout ce qu'il y a, à travers son discours, là, on sent qu'on n'évolue pas.
Tout naturellement, les députés du parti au pouvoir ont un autre son de cloche. On écoute.
Oui, moi c'est le député Nimaï Nabié, MPP. D'abord dire que l'état de la nation en tant que tel, c'est l'état de la gestion de l'année 2015. Et un gouvernement qui est installé à peine 4 mois, nous voulons des résultats immédiatement pour tout un pays. Je pense qu'il faut être réaliste et raisonnable. Il y a un travail qui est en train de le faire. S'aimer aujourd'hui et demain vouloir récolter immédiatement.
Alors, je suis l'honorable Mamadou Diallo, député élu du Sourou, le MPP. Notre Premier ministre, il a été clair et précis. Il a même été trop dans les détails. À mon avis, ça ne mérite même plus de questions. Après son discours, tout était clair.
Zouana Ounogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24h sur 24, Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
Dans la majorité des stations d'essence et de pétrole de la capitale, on remarque de longues files de voitures, camions et motos. L'essence qui coûte plus de 1 dollar américain en francs burundais manque depuis une semaine, mais les autorités indiquent que les stocks de gazole et de l'essence existent. D'autres sources parlent de manque de devises pour l'importation de ces produits vitaux. La population est obligée d'aller dans certains quartiers de la ville pour acheter un litre plus de 3000 francs burundais. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurundiza, a parcouru le centre-ville ce vendredi matin.
Sur l'avenue Prince Louis Rogasore, à la station Burundi Petroleum, les pompes carburantes sont fermées. Mais sur la grande artère séparant les quartiers Buiza et Buyenzi, la circulation est normale. Les chauffeurs attendent que le gasoil ou l'essence soit distribué. Mais seules 2 stations situées sur la chaussée Prince Louis Rogasore sont fonctionnelles. Des longues files de motos, voitures et gros camions attendent depuis plus de 2 heures que l'essence leur soit servie à la station King Star de Buiza, une des rares stations qui est disponible à donner du carburant au conducteur. Témoignage de ce jeune homme de 25 ans.
Moi, je suis là depuis 2 heures. Je suis en train de chercher du carburant de marque essence depuis 2 heures déjà. Les possibilités d'avoir le carburant, c'est pas évident qu'on va y avoir parce que avant, j'étais à Kinindo. J'étais au deuxième banc. J'allais avoir et on nous a dit que le carburant, c'est fini. Il faudrait qu'ils étudient en haut et en large cette question. La vie... Si en ville, c'est sans carburant, la vie est impossible.
Mais dans le quartier voisin de Buyenzi, sur une avenue, des mères se rassemblent pour vendre de l'essence dans des bidons. Elles affirment que le carburant est acheté en RDC voisine et ne gagnent que 200 à 300 francs burundais par litre. Cette maman a voulu témoigner. La femme trentenaire indique qu'avec d'autres mères, elles veulent aider les voisins pour pallier à ce manque de carburant. Elle témoigne qu'elle se rend souvent à Ouvira, au Congo voisin avec d'autres femmes. Elles gagnent entre 200 et 300 francs burundais par litre. Mais toutes ces femmes commerçantes savent qu'elles travaillent en dehors de la loi burundaise. Elles demandent compréhension des autorités car, pour elles, elles ne font qu'aider les frères et sœurs burundais. Le Burundi possède 6 sociétés qui importent de l'essence à partir de l'étranger. Le ministre de l'Énergie et des Mines qui est en charge de cette question confirme que les stocks du gasoil et de l'essence peuvent tenir plus d'un mois.
Au niveau des stocks, si nous faisons référence au calcul vis-à-vis du carburant disponible au niveau de notre pays, je confirme qu'il n'y a pas de pénurie de carburant aujourd'hui dans notre pays.
Il est à rappeler que certains fournisseurs de carburant nous ont indiqué qu'il y a un problème de devise pour l'importation de ces produits pétroliers. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. L'Angola fait face à une explosion de cas de fièvre jaune et le vaccin se fait rare. Des cas sont également signalés en République démocratique du Congo, au Kenya, en Ouganda et en Chine. Une propagation de la maladie qui inquiète, d'autant qu'il n'y a pas de traitement. La vaccination est le seul moyen de se prémunir, mais fabriquer un vaccin n'est pas une chose aisée. Lionel Gaïma.
L'Institut Pasteur de Dakar est l'un de quatre centres de production du vaccin contre la fièvre jaune dans le monde. Derrière ces murs aseptisés, à travers des baies vitrées, on peut voir des techniciens s'activer dans les labos sous leurs masques de protection. Chaque semaine, un carton spécial d'œufs de poule arrive d'Allemagne. Première étape, les chercheurs doivent injecter dans chaque œuf le virus, puis suivront des semaines d'incubation, d'extraction, des mélanges et d'autres tests. Fabriquer un vaccin peut prendre 6 mois. 80 millions de doses sont produites chaque année dans le monde, dont 10 millions à l'Institut Pasteur de Dakar. Antoine-Marie Diatta y dirige l'équipe de production.
On est en capacité de produire une certaine quantité de vaccins, mais malheureusement, ça ne peut pas atteindre le besoin mondial en vaccins. Et même pour les autres fabricants aussi, ceci est pareil. Et quand il s'agit de la production de routine, pour les campagnes de routine, ça pose aucun problème. Mais le plus gros problème, c'est quand il s'agit d'épidémie. Parce que là, effectivement, il y a un besoin immédiat de vaccins pour vacciner un grand nombre de personnes. Et malheureusement, ceci pose souvent problème. Il y a un problème de disponibilité de vaccins.
Il est difficile de prévoir le besoin en vaccin contre la fièvre jaune. Celui-ci peut être conservé pendant 3 ans et les fabricants ne peuvent pas se payer le luxe d'une superproduction. Antoine-Marie Diatta explique.
Le stockage du vaccin pour le producteur, ce n'est pas intéressant. Ça nécessite effectivement que vous disposiez de chambres de stockage très importantes quand le vaccin n'est pas utilisé. Et deuxièmement, vous stockez de l'argent. Parce que si le vaccin n'est pas utilisé, alors que vous injectez de l'argent et vous attendez des retombées, ce n'est pas facile. Donc ça veut dire que vous allez investir, vous thésaurisez votre argent et vous êtes là, vous attendez. Sachant que vous devez faire face quand même à un certain nombre d'investissements, à un certain nombre, vous attendez quand même à une certaine retombée, parce que les salaires, il faut les payer, les équipements, il faut les renouveler.
Endémique dans 34 pays africains, la fièvre jaune se transmet par piqûre de moustique. Une seule dose de vaccin peut vous protéger à vie. Pour Samson Agbo, chef d'un programme de l'UNICEF en Angola, 80% de personnes vivant dans des zones à haut risque doivent être vaccinées. Mais dans beaucoup de régions du continent, le taux de vaccination se situe en dessous de 60%. Le pays à haut risque sont connus. Idéalement, il devrait avoir de très solides programmes de vaccination, c'est-à-dire ceux touchant chaque enfant. Nous devons investir davantage si nous voulons prévenir des situations comme cette sorte d'épidémie. Près de 2000 cas ont été signalés en Angola depuis octobre 2015. Une campagne d'immunisation a été lancée en février avec 16 millions de doses de vaccins. Cela a aidé à ralentir la propagation de la maladie, mais l'OMS prévient que si la fièvre jaune se répand dans d'autres pays, les stocks de vaccins ne suffiront pas et 2 millions de personnes seront exposées à cette maladie incurable. Tariq Jasarevic, porte-parole de l'OMS à Genève.
Nous devons nous assurer qu'il y ait assez de fonds et nous travaillons avec les fabricants pour voir comment augmenter la production. Certains nous ont assuré qu'ils peuvent augmenter leur production, mais nous avons refait nos stocks et espérons pouvoir contenir l'épidémie en Angola de sorte qu'il n'y a pas besoin de doses additionnelles que nous n'aurions pas. Les 3 autres laboratoires fournissant un vaccin contre la fièvre jaune sont en Russie, en France et au Brésil. L'Institut Pasteur veut ouvrir d'ici 2020 un nouveau site dans la banlieue de Dakar pour augmenter sa production.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Mise en onde Lionel Gaïma, présentation Morgane Diriac et Chérubin Dorsil, console et Nick Ivanov.
Ainsi va le monde aujourd'hui.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. diffusée partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.